le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Claire Latsag au micro.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ce soir, une émission consacrée à une autre émission, Infinitif, produite par Chloé Despax et Clément Baudet, alias La Mèche et le Mulet, sur Radio Grenouille. Infinitif, dont le titre évoque les jeux de mots des salons de coiffure, et qui est décrite comme un abaissed hair transgressif, des actions vitales qu'on fait tous les jours, sans même plus penser qu'on les fait. Naître, digérer, voir, marcher, désirer. L'émission reprend toutes ces actions à la racine, avec des sons qui défrisent, et bien dégagés, ou engagés, derrière les oreilles. On en parle tout de suite, avec la mèche et le mulet.
Bonjour et merci beaucoup à tous les deux d'avoir trouvé le temps pour cette interview.
Salut, merci à toi.
Salut Claire.
Pourriez-vous vous présenter et nous dire quelles sont vos multiples casquettes de radio et de son ?
Alors, moi je fais de la radio depuis 20 ans et en radio associative, d'abord à Avignon, à Marseille, à Bruxelles pendant 14 ans à Radio Panique. Et là, en revenant à Marseille...
C'est quand? Ça fait combien de temps que tu es revenu à Marseille?
Ça fait 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et on s'est rencontrés entre-temps, j'habitais encore à Bruxelles avec le mulet. Et donc quand je suis venue m'installer à Marseille, on a commencé à pas mal se voir. Moi, j'ai une pratique à la fois d'antenne, notamment à Panique, d'émissions musicales, mais aussi un travail... plus documentaire, fictionnel principalement, et aussi autour du paysage sonore. Donc une approche très, plutôt disons, sonore de la radio. J'ai l'impression qu'on se complète assez bien aussi avec le mulet.
Ouais, carrément. En fait, on s'est rencontrés avec La Mèche dans un festival de radio qui s'appelait Utopie Sonore. C'est une des résidences de création radiophonique. On s'est rencontrés en 2017-2018, je crois. Et l'idée, c'était de proposer à des personnes de venir expérimenter et faire de la radio en collectif, ensemble. J'ai découvert aussi toute la joyeuse bande de radioactifs bruxellois autour de Panique et tout ça. Et sinon, oui, alors pour revenir sur ce que tu disais, qu'on se complète assez bien, c'est vrai que moi, je fais de la radio depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé au Québec, à Montréal, mais aussi, j'ai pas mal fait de la radio à mes débuts ici, à Marseille, à Radio Grenouille. Et quand je suis revenu m'installer à Marseille, un petit peu en même temps que La Mèche, en fait, très vite, l'envie de revenir voir ce qui pouvait s'imaginer dans le locaux de Radio Grenouille, une grosse envie aussi de refaire du direct, de refaire de l'antenne, étant donné que moi, à côté, je fais plutôt de la radio avec une perspective plus journalistique ou documentaire, mais avec un vrai travail plutôt sur la voix, sur le récit, sur le témoignage. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est assez vite retrouvés sur l'envie de fabriquer une émission avec mensuel, avec du direct, quelque chose d'assez collectif et joyeux à Marseille, qui parle de Marseille, mais pas que de Marseille.
Depuis octobre 2023, vous avez lancé l'émission Infinitif, diffusée une fois par mois sur Radio Grenouille.
Ouais, c'est ça, c'est tous les premiers mercredis du mois, à midi.
Et donc, Infinitif, qu'est-ce que c'est ? Et d'où est née l'idée de cette émission, de ce format-là ?
Donc l'idée est née dans une rivière
des Cévennes.
Des Cévennes, chanceux qu'on est. On était au festival Tumulte. Et là, c'est là où l'envie d'antenne, en fait, est devenue plus forte que tout. envie de faire des choses à plusieurs. Et donc, c'est là qu'on a créé ce concept, disons, d'infinitif. Donc, l'idée d'un salon de coiffure où chaque mois, on va s'intéresser à une action vitale qu'on fait a priori sans y penser. Et on avait déjà la forme de magazine, voilà, l'envie qu'il y ait plein de formats différents pour nourrir l'émission. Donc, qui va du field recording du documentaire, une prog musicale, un invité ou une invitée à chaque fois en direct.
Des lectures.
Une attention aussi à des virgules, à un habillage en fait spécifique à chaque émission. En fait, on y passe un temps de malade.
C'est vrai qu'on y passe pas mal de temps.
Ouais, pour préparer cette heure-là.
Eh bien, je vous propose qu'on écoute un premier extrait tiré de Infinitif numéro 10 sur le verbe naître.
On est monté dans la voiture, on a démarré.
Je démarre.
Et là, on s'est retrouvé coincé derrière le camion poubelle.
Là, elle accouche et il y a les putains de camions poubelles qui sont juste devant la voiture.
Et j'ai paniqué.
Donc j'arrive à les doubler, je trace jusqu'à la maternité.
Il a conduit hyper vite.
Elle est hyper concentrée sur sa douleur. Et moi, je lui dis, mais c'est super, ton col, il s'est bien dilaté. Ils vont pouvoir te poser la péridurale, t'inquiète pas, ça va aller.
Dans la voiture, je continue à crier et je criais que j'étais un mammifère, que j'étais un ours.
Je me gare en warning devant les urgences.
Je me suis suspendue à lui parce qu'en fait, à chaque contraction, ça me terrassait tellement fort que je pouvais plus tenir debout.
Et je me rappelle du regard des sages-femmes et des aides-soignantes qui sont arrivées en courant.
Ils m'ont jeté sur un fauteuil roulant.
Et là, j'ai vu dans leur regard que c'était urgent, quoi. Et moi, comme un con, je sais pas pourquoi je pense à la voiture, parce que j'étais garé en warning devant les urgences. Faut peut-être que j'aille me déplacer s'il y a une autre urgence, pour pas gêner, quoi. Et là, elles me disent, mais monsieur, vu le bruit que fait votre compagne, c'est la naissance maintenant.
Il y avait 4 ou 5 soignantes, que des femmes.
Je crois que je comprends pas trop ce qui se passe. On arrive dans une salle de naissance, elle la balance sur la table, quoi, lui mettre les pieds dans les étriers.
Elles m'ont mise toute nue, j'ai demandé la péridurale, elles m'ont dit non, mais là, en fait, on vous a entendu crier, c'est trop tard, là, vous allez accoucher, c'est maintenant la naissance.
Vous êtes dilatée à 10, donc faut pousser maintenant.
Et moi, je me rappelle plus grand-chose, elles m'ont mis les monitos sur le ventre pour vérifier que l'enfant allait bien. Et elle a dit, bah, en fait, là, c'est parti. On va y aller.
Je crois que je m'étais tellement préparé à ce que ça dure des heures et on dit toujours oui, c'est très long pour des premiers accouchements, ça peut prendre des heures. C'est aller beaucoup, beaucoup trop vite, quoi.
Ce ventre qui se débattait dans tous les sens. Je me rappelle, elles étaient 5, une à chaque pied, une à chaque bras.
En mode armada de l'accouchement, quoi.
Et elles m'ont coaché pour que j'arrive à gérer ce qu'on appelle la poussée, donc le moment où tu dois faire sortir l'enfant de ton ventre. Et c'était trop beau.
Je tenais le bras d'Alice.
J'ai pensé à toutes les femmes dans le monde qui accouchent sans péridurale et à toutes les femmes dans le monde qui accouchent. Et ça m'a envie de pleurer. Et du coup, j'ai pensé à elle et je me suis dit, vas-y, franchement, toi aussi, tu peux le faire et tout.
Elles étaient 5 et elles étaient déterres.
Et du coup, il y avait cette dame à ma gauche, là. Elle chuchotait comme ça, elle me disait, Alice, vous êtes une warrior, vous êtes une guerrière, vous êtes hyper forte, vous allez y arriver, vous allez sortir votre bébé, vous êtes une warrior, vous êtes une guerrière.
Moi, j'ai l'impression de servir un peu à rien. J'étais sur le côté, j'étais là, t'es trop forte, vas-y, t'es trop forte.
Je me rappelle, je l'ai regardée comme ça et je lui ai dit, vous vous appelez comment? Et elle m'a dit, Ariane. Et là, j'ai pensé, c'est mon fil d'Ariane. Et je lui ai dit, ça m'aide beaucoup ce que vous faites. Et elle m'a dit, ok, enchantée, on y va. Et bah, j'ai poussé.
Elle a poussé.
Je sais pas combien de temps ça a pris.
Moins de 20 minutes.
Toutes ces femmes autour de moi, c'était comme si j'étais la mère et elles me portaient.
Vu que j'étais le seul mec dans cette salle, j'avais l'impression d'avoir accès à un truc hyper privilégié.
J'avais l'impression d'une grande vague, qu'elles étaient là et que je leur faisais confiance et qu'elles me faisaient confiance et qu'elles me portaient et que je devais fournir un effort tellement fort que j'aurais jamais réussi à le fournir si elles n'avaient pas été mon filet de protection.
J'étais là, mais je ne servais pas à grand-chose, en fait, en vrai. Mais elle savait exactement comment l'aider.
Et en fait, après, sa tête est sortie, son corps est sorti.
Ils m'ont dit, faut couper le cordon, monsieur. Et j'étais là, ok. J'ai fait ça de manière très mécanique, quoi. J'ai pas trop réfléchi. J'étais là, ok, je coupe le cordon.
Et elles l'ont posé sur ma poitrine.
Ça allait trop vite, en fait.
C'était tellement fou.
Moi, j'hallucinais. J'étais là, waouh. C'est la naissance, quoi.
C'est comme si j'avais même pas eu le temps de voir venir son arrivée.
C'est express, quoi. D'un coup, genre, pas.
Elle était toute rouge, toute gluante et très très chaude. Et ça, c'est une sensation folle. C'était comme un petit tas de chair glaise.
Avec des grands yeux hyper ouverts, noirs, qui nous regardaient d'une intensité.
C'est une sensation que je ressens encore souvent. Et je ressens aussi encore la sensation de mes os, du bassin qui craque. Ça m'a rattachée à toute l'humanité. Au moment où elle passe. Et c'est comme si à ce moment-là, en fait, tu fais qu'un avec le cosmos, quoi. Ton corps, il est écartelé, traversé par un être vivant. Et ça, tu peux le faire que parce que t'es pas toute seule, en fait.
Puis on savait pas le sexe de l'enfant. J'étais tellement pris par l'émotion et la stupeur, je crois, que j'ai pas demandé tout de suite.
C'était une petite fille.
Ils ont demandé comment s'appelle cette petite fille. Et on a dit tous les deux en pleurant, on a dit c'est Dalva.
C'est Dalva. Cette petite fille, c'est Dalva.
C'était hyper beau.
Ça m'émeut parce que c'est la naissance. Et c'est la sienne et c'est la mienne.
Et elle est née à 5h39 du matin, Dalva. Et Dalva, ça veut dire de l'aube. Donc c'était à point nommé. C'était le début du jour, quoi. Il y avait un mistral de dingue et il faisait beau. C'était ça, sa naissance. Fracassante.
C'était la naissance de Dalva et une création que tu as réalisée, le mulet, avec Alice le filleul. Est-ce que tu veux en dire quelques mots?
Ben, c'était aussi une manière de raconter, en tout cas d'archiver aussi la naissance de ma fille, qui est née pendant le moment où on a fait une pause d'infinitif, donc qui est née en septembre. Et puis voilà, on a aussi choisi le verbe naître en fonction de ça. On accepte que nos vies se retrouvent dans la radio à des moments ou pas, en tout cas que ça circule. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un format un peu court de cette création, parce qu'en fait, en vrai, au début, on l'a faite c'est une version plus longue qui dure 13 minutes, pour la nuit, une nuit de création radio qui a été réalisée par des camarades sur Radio Canu. Ça s'appelait Ondes de nuit et c'était toute une nuit de radio pendant le solstice d'hiver, donc le 21 décembre 2024. Et c'était très beau, donc ils ont reçu des contributions de plein de copains, copines de radio d'un peu partout en France et pas qu'en France d'ailleurs. Donc La Mèche a aussi envoyé un très bel enregistrement du Maroc.
Ah oui, d'une cérémonie de transe, ouais, pour Ondes de nuit.
En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, ces espaces de création collective. Enfin, je trouve que c'est des espaces qui sont hyper importants, qui sont très précieux. Ils ont eu, je ne sais pas combien de contributions pour leur dernière Onde de nuit, mais c'était vraiment magnifique. Une nuit radio qui commence à 22h et jusqu'à 9h du matin, c'est des espaces qui n'existent plus dans les radios, ni public, ni trop associatif, parce que on part du principe que les gens n'écoutent pas la radio la nuit et que le podcast a tué le game de l'écoute nocturne, où on allume la radio, on tombe sur un flux qu'on découvre et qui est surprenant. Et alors que je pense que c'est vraiment des espaces hyper importants. Donc voilà, Infinitif, c'est pas ça, mais à une autre échelle, on espère contribuer en tout cas à élargir les horizons et ouvrir les portes et les fenêtres. Et puis Infinitif est aussi un bon endroit en fait pour pouvoir diffuser ce type de création courte, pour mettre en mots des choses ou tester des formes. Et puis c'est aussi un bon prétexte pour nous pour aller enregistrer certaines choses dans la ville, pour aller rencontrer des gens. Et voilà, d'utiliser en tout cas la radio comme un prétexte, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait, que Chloé fait beaucoup. Et voilà, c'est aussi un super bel espace comme ça de partage et de découverte.
Et c'est vrai qu'on retrouve aussi d'ailleurs pas mal de field recording que j'ai fait par ailleurs dans l'émission.
C'était Naïm et le couscous à la harissa, par Lamèche, pour Infinitif sur le verbe digérer. Infinitif, c'est aussi du partage. Il y a les chroniques régulières de Postiche sur le cinéma ou la psychanalyse, et celle de La Touffe, qui s'intéresse aux passions bizarres des gens. Au fil des émissions, se dessine une constellation d'auteurices et de collectifs de création sonore, comme les collectifs Monobloc et Radio Nunc. La Mèche et le Mulet nous racontent comment ils construisent leur émission grâce à ces contributeurices.
Il y avait cette idée-là aussi d'imaginer aussi une émission, enfin en tout cas un créneau qui pouvait être un espace de partage, quelque chose de collectif. Et là, c'était aussi l'occasion d'ouvrir une porte, et en tout cas un espace où on pouvait dire à nos autres copains, copines de radio, ben, on a cette case-là tous les mois sur Grenouille, si ça vous inspire tel ou tel verbe, ben, produisez-nous des choses, vous pouvez faire des petites créas. Et en fait, c'était l'occasion aussi d'ouvrir en tout cas un espace partagé de création.
Ouais, ça a été quand même un appel, il y a eu un premier appel lors de ces résidences radiophoniques Utopie Sonore, où en fait, avec Clément, on avait proposé un petit atelier où on avait déjà une idée des premiers verbes. Donc il y a des choses qui ont déjà été réalisées l'été, juste avant qu'on se lance.
Et justement, est-ce que vous voulez citer quelques-unes de vos collaborateurs, collaboratrices réguliers ? J'ai l'impression qu'il y a certains noms qui reviennent régulièrement.
Bah, c'est surtout des copains, en fait, ou des copines, quoi. C'est des amis.
C'est Félix, des gens qui font de la radio à Marseille, ou oui, ailleurs pour Félix, mais...
On en parle à les gens qu'on connaît qui font de la radio, on leur en parle. Des fois, ça les inspire. Il y a des personnes qui vont nous faire une contribution pour une émission, d'autres qui vont gamberger pour, et produire pour plusieurs.
Alice Le Filleul, par exemple, elle est plutôt dans l'écriture et le littéraire, quoi, donc avec des apports...
De création de textes ou de textes littéraires qu'elle lit. Amélie Perrault a amené pas mal de sons aussi.
Ouais, via le collectif Monobloc dont elle fait partie. Donc, puiser dans les archives...
Des uns des autres.
Des uns des autres, ouais. Donc là, en l'occurrence, du collectif Monobloc, où en effet Félix dans ses...
Félix Blum, pour
Félix Blum,
le
ouais. Qui donc fait du field recording et des enregistrements de terrain. Et donc voilà, quand nous on n'a pas forcément
l'enregistrement qui va bien, on se dit ah, sûrement que Félix il a quelque chose qui peut correspondre au thème.
Ouais, là depuis ce mois-ci, donc le verbe au mois de mars est chuté, et il y a une association marseillaise qui s'appelle Radio Nunc, qui est un projet de web radio autour du field recording et de la création radiophonique, qui se veut une fenêtre ouverte sur le monde, qui participe avec un appel à son. Et,
autour du verbe, donc.
Autour du verbe. Et Isota Trastevere, qui fait partie de l'association, fait un petit montage. Et donc là, on aura une création de 2 minutes 30. Pour chuter.
Et tous les mois.
Ouais, et il y a l'idée que les mois prochains aussi, on ait cette création par Nunc et ses contributeurices eux-mêmes, quoi. Donc, c'est les contributeurices des contributeurices.
Le réseau amical et de pratiques professionnelles autour de la radio, il est existant, mais c'est aussi Infinitif, c'est aussi une occasion finalement à la fois de le vivifier et puis de continuer des liens, d'échanger des choses, de se lancer un peu des défis de production ou de création. Et c'est un joli jeu et que c'est, en tout cas, moi ça me nourrit aussi personnellement. Le fait de réfléchir comme ça tous les mois à un verbe et à des formes possibles, je trouve que ça ouvre des pistes intéressantes.
Oui, puis c'est un des enjeux aussi de la radio associative, quoi, un des rôles de la radio associative, où nous qui avons une pratique quand même depuis pas mal d'années sur des formes fixes, où on travaille souvent sur le détail, le mot, le silence. Et bien là, il y a quelque chose de plus spontané aussi, et en effet de plus collectif, qu'il y ait un studio qui brasse aussi plein d'autres gens, tout comme une ville. Enfin, on se sent, plus connecté à là où on vit.
Et puis il y a plein de choses à raconter.
Grâce à la radio.
Ouais. Ouais.
Voyez-vous cet homme qui passe dans la rue, demain il pleurera, en attendant il rit. Oh, voyez-vous cet homme qui passe dans la rue, demain il mourira, en attendant il vit.
La dernière phrase que ma grand-mère m'a dit avant de mourir, c'était « Petite fille, faites attention avec le sexe. »« Niña, vigila con el sexo. » Parce que, en fait, pour être franche, c'était déjà la dernière étape. Elle prenait de la morphine. Et je pense qu'elle avait des allers-retours au passé et qu'elle disait des choses un peu bizarres, genre tout. Je pense que c'est sa mère qui lui disait à elle, et du coup elle a juste répété les mots de sa mère, je sais pas, elle m'avait jamais parlé de sexe, et tout d'un coup elle se réveille, elle ouvre les yeux et elle me dit « ma petite fille, fais attention avec le sexe », ça n'avait pas du tout de sens, tu vois. C'était vraiment la dernière phrase, hein, c'était vraiment, vraiment.
Alors, c'était il y a quelques années, je suis allée voir ma tante à l'hôpital, elle était en phase terminale. Du coup, je me suis retrouvée dans sa chambre, sachant assez clairement que c'était la dernière fois que je la voyais. C'était une chambre d'hôpital, alors c'est pas très intime, et puis en plus, il y avait toute ma famille autour de moi. En plus, on n'est pas très doués pour l'intimité dans ma famille, on sait pas trop dire les choses qu'il faudrait dire, on n'est pas très tactile non plus. Bref, c'était un moment un peu maladroit, je crois. Et alors, je me suis mise à côté d'elle et elle m'a fait tendre mon visage vers elle. J'ai cru qu'elle allait me dire quelque chose à l'oreille. Et en fait, elle m'a mordu assez vivement l'oreille, sachant qu'en plus, elle était bien diminuée. J'ai trouvé ça assez surprenant. Elle m'a mordu l'oreille et m'a, je crois, tapoté sur la cuisse. Et puis voilà, c'est les dernières choses, non pas qu'elle m'ait dites, mais qu'elle m'ait... C'est la dernière chose qu'elle m'a faite. Et mine de rien, c'est un souvenir assez... Je m'en souviens vraiment, vraiment clairement de cette morsure.
Alors moi, les derniers mots dont je me souviens, c'est ceux de ma chienne, Pomme, là, qui est décédée il y a bientôt un an. On était dans le salon, la famille réunie. Et on s'est tous, un par un, couchés contre elle. Et donc, ces derniers mots, c'était... Et ce qui m'a vachement touché, c'est que bah, moi, c'est quelque chose qu'elle m'avait jamais dit. Elle m'avait toujours dit... mais elle m'avait jamais dit... à ce moment-là, bah, j'étais vraiment couché contre elle. C'était ses derniers mots. Et pour moi, ça voulait dire... je pars, t'inquiète pas, me retiens pas, je pars. J'ai bien vécu.
Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer.
Le dernier mot de l'actu.
Ceux qui aiment mieux les hommes vivants plutôt que morts, il paraît qu'ils ont tort.
That is when you'll hear the song falling from the sky. Oh, happy yesterday to all. We were born to die.
Tu vas pas manger.
Oh, happy yesterday to all. We were born to die.
C'était Dernière parole, une création d'Amélie Perrault du collectif Monobloc pour l'émission Mourir. Infinitif est aussi une émission qui permet de faire entendre les êtres humains et non humains qui habitent Marseille.
Nous, on habite plutôt le centre-ville. Moi, je suis dans le premier.
La radio est dans le troisième, mais limite premier. La radio, c'est à la Friche, la Belle de Mai, à Marseille, dans le troisième, pour ceux qui connaissent Marseille.
Mais on a, là, par exemple, pour Chuter, on a des enregistrements dans un dojo avec des enfants qui font du taekwondo dans le 15e, donc plutôt dans les quartiers nord de Marseille. On essaie de faire entendre aussi différents endroits de la ville. Mmh.
Que ce soit sur le Frioul, pour habiter.
Ouais, ou à nouveau, dans le 15e, habiter avec une famille...
Dans le squat.
Ouais, de Rome, dans un squat qui nous parle de leur... qu'est-ce que c'est pour eux habiter. Là, il va y avoir des skaters pour Chuter, des skaters marseillais.
C'est le terrain, le territoire où on s'ancre. Donc, en fait, forcément, on va parler de ce qui se passe ici. Après, on n'a pas... J'ai pas l'impression qu'on ait un propos particulier ou quelque chose à raconter en particulier sur Marseille. On est plutôt des gens, pour le coup, à l'écoute. On est plutôt là pour rapporter des paroles qu'on peut entendre, mais on n'a pas forcément d'objectif précis, ni de désir d'exhaustivité, ni de volonté particulière d'avoir un discours précis ou construit sur Marseille. Et je trouve qu'il y a tellement déjà de discours préconçus et de préjugés que peut-être que notre rôle, c'est justement d'être plus à l'écoute que dans une volonté de raconter quelque chose de précis ou de préconçu.
Et nos invités sont toujours... très actifs et actives à Marseille, ou ont une réflexion sur cette ville, ou en tout cas sont ancrés. Eux amènent aussi cette vision, leur vision.
Et l'expérience du terrain marseillais. Mm.
Parfois, marcher, c'est aussi une manière de se faire entendre, d'être là, visible, en groupe, dans l'espace public. Marcher comme un acte politique où les corps en mouvement semblent faire bloc pour dénoncer et espérer qu'un autre monde est possible.
Cette marche-là, elle a 40 ans, presque jour pour jour.
Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, mais sachez qu'ils et elles sont partis de Marseille, et c'était le 15 octobre 1983.
Partis de Marseille dans une indifférence quasi générale, ils ont sillonné les routes de France.
1200 km dans les mollets, tous ensemble.
Une longue marche pour l'égalité et contre le racisme.
Pour revendiquer leur intégration et casser la spirale de la violence.
En réaction contre cet été chaud 83, cet été des tontons flingueurs, des tireurs anonymes sur cibles vivantes et de préférence basanées.
Égalité, dignité, compréhension mutuelle, ce sont les thèmes de campagne des marcheurs, qu'ils soient enfants d'immigrés ou français.
L'initiative est née au Minguette, le quartier de la banlieue lyonnaise devenu un peu le symbole de ces grandes cités du mal-vivre de notre société.
Moyenne d'âge 24 ans. Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche, mais surtout une énorme impatience d'en finir avec le racisme.
Nous avons entrepris donc cette lutte en espérant que amener la majorité des Français à se poser la question suivante. Qui sont dans l'affaire les gens qui créent l'insécurité? Qui sont les délinquants? Qui sont les gens violents?
6 semaines après, ils sont accueillis à Paris par une foule immense.
Vous êtes venus nombreux de Marseille?
Au moins 400, oui.
Et pourquoi vous êtes montés de Marseille jusqu'à
cette
manifestation?
Parce qu'on y croit à la marche.
Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez?
Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
Elles sont hyper touchantes, ces jeunes qui demandent à vivre dans la dignité. Et très entraînant, le morceau que vous avez choisi, le mulet derrière.
Ah oui, c'est la marche turque, la sonate pour piano numéro 11 en la majeure de Mozart.
Et donc, on est 40 ans plus tard, nous voilà en 2023, et on entend les slogans derrière.
Oui, c'était le 23 septembre dernier dans les rues de Marseille. On était ensemble, on a attendu nos micros.
Mm-hmm. Après les meurtres par la police de Naël Merzouk en juin dernier à Nanterre, de Aloussaine Camara à Angoulême, la mort de Mohamed Bendriss à Marseille, partout en France, il y a une centaine d'organisations qui a appelé à marcher contre les violences policières et le racisme systémique.
40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, le constat est amer et la liste des personnes racisées victimes des violences des forces de l'ordre ne cesse de s'allonger. À chaque ville, ses victimes. Ici à Marseille, c'est les noms de Zineb, Souheil, Mohamed que les manifestants et les manifestantes étaient venus scander. Pas d'oubli.
Et en tête de cortège, il y avait Zora, qui marche depuis 1983 et qui a bien voulu prendre quelques minutes et être relayée pour pouvoir parler au micro pendant la manif.
Je m'appelle Zora Boukounouche, je fais partie du collectif Mémoire en Marche, issu de cette histoire de la marche de 83. Ben, moi, les souvenirs que j'ai, c'est qu'à l'époque, je faisais partie d'une radio libre qui était Radio Gazelle, donc c'était une radio multiculturelle. Ce n'est pas du tout le projet qui existe aujourd'hui. Et on faisait partie des gens qui ont accueilli les marcheurs avec le MRAP, la CIMAD et d'autres associations. Et c'était, ben, pour moi, c'était la rencontre avec d'autres jeunes, d'autres villes qui vivaient les mêmes violences que nous. 40 ans après, on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a la police qui intervient violemment dans les quartiers. Ça concerne toujours les populations des quartiers populaires issues de l'immigration postcoloniale et de l'esclavage, puisque moi je fais partie de la deuxième génération. Là, on est à la quatrième, cinquième génération, et il se trouve que ces jeunes-là vivent encore les mêmes violences qu'il y a 40 ans. Je suis restée en contact avec certains marcheurs, comme Jamel Atala, Farid Lawa. Et donc 40 ans après, on s'est retrouvés dans cette coordination-là en se disant, il y a eu ces 40 ans qui sont passés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait? Et se dire, bon, ben, on a fait des choses, mais peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, on continue à assassiner des jeunes dans des quartiers.
Souhaine, Naël, Zinev, on n'oublie pas, on pardonne pas. Souhaine, Naël, Zinev, on n'oublie pas.
On va pas arrêter de marcher, on aimerait arrêter de marcher, mais on peut pas laisser nos jeunes continuer. C'est sûr que là, il y a une relève qui est en train de se mettre en place, mais nous, on est là pour leur dire, on est là, on vous soutient, et on continue. C'est ce qu'on fait avec, par exemple, les parents de Souhel. C'est une histoire de filiation des luttes, c'est-à-dire qu'ils sont les descendants des marcheurs de 83, et leurs aïeuls, c'était les marcheurs d'octobre 61 qui sont manifestés contre le couvre-feu à Paris. Ce sont ceux qui ont marché le 8 mai 45 lors de la libération de la France en Algérie en se disant c'est bon, on va avoir l'indépendance, etc. Donc c'est une histoire de lutte, cette filiation, elle existe.
Et par rapport à la marche et à la commémoration, les 40 ans, est-ce qu'il y a des choses particulières prévues à Marseille?
Bien sûr, pour le programme, pour moi, le plus important, c'est que nous avons réussi à faire une expo qui va être au musée d'histoire de Marseille du 15 octobre au 15 janvier.
Abyssin hair.
C'était un extrait de l'émission Marché, avec un mix d'archives de la marche de 1983 et une interview de Zora B, militante antiraciste. Infinitif, c'est donc aussi une émission engagée politiquement. Les verbes choisis permettent de mettre en perspective des actions quotidiennes avec l'histoire des luttes, de montrer comment les combats militants d'hier et d'aujourd'hui peuvent renouveler nos façons d'agir. Parfois, c'est aussi l'occasion de questionner nos nouvelles pratiques, nos habitudes, notamment quand elles nous surexposent à la violence. Comme dans la pièce sonore « Oublier Facebook » d'Emmanuel Vigier et Géry Petit, qui a été diffusée dans l'émission « Voir » et où l'on entend le témoignage d'un ancien modérateur Facebook.
On a des psychologues qui passent dans l'espace où on travaille. Toutes les 5 minutes qui sont là pour voir, ils nous demandent si tout va bien. J'ai vu des situations où des collègues qui tombaient dans les pommes, quoi, carrément. Des collègues qui se mettaient à pleurer. J'ai un peu tout vu et il y a des collègues qui gèrent très bien tout. Ça m'a vraiment touché. Pour mon bien-être, il fallait que j'arrête. Petit à petit, ça m'a abîmé. Et c'est vrai que j'ai vu tellement de choses horribles ou de commentaires horribles que on voit plus l'être humain de la même façon après. trash, ce que je veux dire, mais j'ai vu des gens qui se coupaient le sexe en direct. Quand on devient assez expérimenté, on peut avoir modérer des vidéos en direct. À un moment donné, au bout d'un an, voilà, on a mis du direct. J'ai vu des choses horribles, comme ça par exemple, comme des gens qui se coupent carrément les oreilles, ou qui se coupent le sexe, ou qui se mutilent, ou qui se suicident. Voilà, j'ai vu des suicides en direct. Voilà, c'est, je pense que c'est après avoir vu tout ça et en plus des horaires horribles qu'on faisait, donc en plus on fait des cauchemars, donc c'est bah, à un moment donné, il faut arrêter quoi. J'ai mis à m'en remettre peut-être un mois, deux mois, je sais pas, par là, pour oublier complètement Facebook.
Même des fois faire un gros pétard et être sifflé que...
Récréation sonore.
Le silence, c'est silence. C'est...
La mèche et le mulet prennent un soin infini à chaque son. Les virgules sonores qu'ils élaborent sont emblématiques. Avant de les retrouver pour poursuivre l'interview, on écoute une virgule de l'émission Chuter.
Écoutez, je vais rappeler une fois encore qu'il y a une très grosse comète qui se dirige vers la Terre.
L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.
Donald Trump, son programme climato-sceptique assumé, fait trembler la communauté internationale.
Donald Trump engage donc la sortie de son pays de l'accord de Paris sur le climat.
Ce n'est pas une putain de bonne nouvelle !
Doubler la production de pétrole pour faire des États-Unis le pays le plus compétitif au monde.
C'est un changement à 180 degrés, priorité désormais à l'exploitation d'hydrocarbures.
Alors qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là ? Franchement, putain !
Je fais cette promesse au grand peuple américain. On va forer, bébé, on va forer du pétrole.
Je crois que tous les membres de cette administration sont complètement en train de péter les plombs. Et je suis sûr et certain qu'on va tous crever.
Affinitif.
En fait, c'est une heure où on réfléchit un peu à chaque son.
C'est vrai.
Qui est dans l'heure, quoi. Peut-être le plus spontané, c'est avec les invités. Mais où on essaie aussi d'intégrer des sons vraiment liés à cette rencontre. Par exemple, pour rire, on a invité l'association Guérir, donc des clowns qui interviennent dans les hôpitaux de Marseille. Et on a été enregistrés au service des urgences pédiatriques pour aussi faire écouter vraiment comment se passe une rencontre, aussi parce qu'on était nous-mêmes curieux de ça. Et que c'était une occasion précieuse, en fait, aussi de pouvoir avoir accès aux services d'urgence de l'hôpital Nord, d'accompagner des clowns en travail, de pouvoir rencontrer des enfants dans ce cadre-là. Et du coup, on en a fait deux fois 1 minute 30 pour accompagner l'interview.
Bah, elle s'appelle Tartine. Ce qui est cool, c'est que du coup, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Du miel ou du chocolat. Ou... Enfin voilà, elle s'adapte bien quoi. Ça peut être une tartine de ce que tu veux. Et puis ouais, elle change pas mal en fait selon les services et selon la période de l'année, selon son cycle menstruel aussi. Elle chante des chansons, elle fait des blagues des fois. Et du coup, là, elle a sa super robe à fleurs. Très champêtre, très printanière. Oui, bonjour. Allez, hop, on va mettre du blanc. Pour moi, la préparation avant de jouer, il faut se préparer à être prête à tout. Il s'agit surtout de laisser... ce corps et cette mentale disponible. Ah. On sait pas quoi. La surprise.
Et l'étape de maquillage, on tient à ce qu'elle soit quand même assez importante. C'est un rituel, c'est un moment pour soi. Comme quand on fait une skincare routine, en fait. Hein.
Oui.
Et en fait, notre clown, il apparaît au fur et à mesure. Et on se regarde dans le miroir.
C'est vrai que c'est un peu... comme si là, la connerie se nichait dans les sourcils.
Elle arrive.
Il fallait la réveiller, ping.
Elle arrive.
Imran.
On est venu voir
toi, maman.
Anan. Et toi, papa, comment tu t'appelles?
Papa.
On peut dire monsieur papa ou pas?
C'est ça, ouais.
Wow. Enchantée, monsieur papa. Elle, c'est Magali.
Ouais. Moi, c'est Magali.
C'est ma copine.
Et elle, c'est Tartine.
Moi, c'est Tartine.
Pardon. Excusez-nous, à vos souhaits.
Il y a tout le monde qui
touche.
Tout le monde,
ici.
On a
le
noir. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est venu voir Imran. Pour on voulait peut-être lui chanter une petite chanson. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te chante une petite chanson? C'est vrai?
Moi j'ai dit de la magie.
Ah ouais?
Oui,
il fait tout, Imran, il est trop fort. Mais tu fais tout, Imran.
Oui.
T'es super fort, dis-le. Oui. La magie, les chansons.
L'amour. De la magie, à qui que la ra.
Abracadabra.
Abracadabra.
Ok.
Oui.
On peut essayer de voir si ça marche.
Si tu fais abracadabra.
Tu vas nous dire.
Tiens, regarde. Tu vas nous dire.
Regarde. J'ai toute ma main. Et là, si je fais comme ça, j'attrape mon pouce. Et là, tu dis abracadabra.
C'est pas de la magie, ça.
Attends. Vas-y. Si, tu vas voir.
Abracadabra.
Vas-y.
Oh. Aïe, il n'y a plus de pouce.
Il n'y a plus de pouce. Enlevez son pouce, là, c'est de la magie. Comment on fait pour le remettre?
Je vais pas rester sans pouce quand même, Imran.
Il connaît un moyen.
Il connaît un moyen de remettre.
Vas-y, dis-nous.
Dis
comment on va faire?
Tu souffles et après, il y a Ricara.
Ah ouais, c'est ça.
Et voilà.
Vas-y, refais. Souffle dessus. Ok, on va voir si ça va marcher. Imran, attention. Il continue à...
On a gagné.
Ça va, il va bien. Oh, mon pauvre petit pouce, c'était pas si doux, dis donc.
Ah oui.
Oh. Il est arrivé tout plein d'aventures. Moi aussi, je suis rassurée. Hein. Donc, t'as vraiment des pouvoirs magiques.
Oui.
Dans chaque émission, on entend des archives de penseurs, d'intellectuels, Deleuze, Marguerite Duras. Alors j'ai vu que, je crois que c'est sur Apple Podcast, vous êtes classé en philosophie. Il y a une étiquette.
Non, c'est vrai.
Ah, mais nous, on nous a dit humour. Ah oui, donc philosophie.
C'est hyper drôle.
Bon, après, ben, j'ai l'impression qu'on a envie... cette approche du verbe, c'est vrai qu'elle est aussi philosophique, elle est avant tout sonore, mais elle passe par de la littérature, de la philosophie. Et c'est vrai qu'on avait des références communes, on les appelle les 3D.
Oui, c'est vrai que c'est les 3D.
Il y a Duras, Deleuze, Despentes.
Et Deleuze. Ah ouais. Oui, c'est vrai, les 3D.
Il y a des proches, en fait. C'est devenu même les 4D.
C'est vrai. Mais il y a Michel Foucault aussi. En fait, il y en a plusieurs qu'on utilise. Après, il y avait vu qu'on avait cette idée-là et cette envie de travailler avec les matières sonores différentes, forcément, l'archive, c'est quelque chose qui est très tentant. C'est très tentant de travailler avec ça et d'avoir les phrasés, des manières de poser sa voix de l'époque de Michel Foucault ou même à la Duras. C'est quand même des pépites qui sont... c'était difficile de se réfréner et de ne pas utiliser ces voix-là quand ça tombait à pic sur des thèmes, que ce soit D comme désir chez Deleuze ou B comme boire.
Pour Despentes ou Duras ou Deleuze, ça marche pour les trois.
Après, on s'est dit qu'il fallait pas qu'il y ait du Deleuze dans toutes les émissions, ouais. Donc des fois on se réfrène vraiment, mais dès quand on peut l'utiliser, on se demande comment on peut la détourner avec quoi on peut le faire dialoguer.
Avec de la dance music, par exemple.
Il s'était déjà invité dans Infinitif pour le B de Boisson en janvier.
Allez, on ressort Tonton Deleuze et son abécédaire avec Claire Parnet.
C'est quoi le désir quand on se déleste de la psychanalyse, plongé dans les théories de Deleuze et Guattari développées dans leur livre L'Anti-Oedipe?
Le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil,
d'une femme,
d'une rue, voilà. La philosophie dite du désir, ça consistait uniquement à dire aux gens, mais allez pas vous faire psychanalyser, n'interprétez jamais, expérimentez des agencements, cherchez des agencements qui vous conviennent. Que chacun cherche. Alors, qu'est-ce que c'était un agencement ? Je maintiendrai qu'il y avait quatre composantes d'agencement. Mais un agencement, ça renvoyait à des états de choses. Que chacun trouve les états de choses qui lui conviennent un peu. Alors, tout à l'heure, pour boire, bon, j'aime tel café, j'aime pas tel café, les gens qui sont dans tel café, etc. Ça, c'est un état de choses. Aux dimensions de l'agencement, des énoncés. Des types d'énoncés, mais chacun a son style, il a une certaine manière de parler. Bon, alors là, c'est à cheval. Dans le café, par exemple, il y a les copains, et puis il y a une certaine manière de parler avec les copains. C'est pas, chaque café a son style. Bon. Donc, un agencement comporte des états de choses et des énoncés, des styles d'énonciation. En 68, quand est-ce que sont apparus les premiers énoncés dits de 68 c'est très très complexe. Enfin, tout agencement implique des styles d'énonciation. Et puis ça implique des territoires. Chacun son territoire, il y a des territoires. Même quand on est dans une pièce, on choisit son territoire. J'entre dans une pièce que je ne connais pas. Je cherche le territoire, c'est-à-dire l'endroit où je me sentirais le mieux dans la pièce. Et puis il y a des... processus qu'il faut bien appeler de déterritorialisation, c'est-à-dire la manière dont on sort du territoire. Je dirais qu'un agencement comporte ces quatre dimensions. Des états de choses, des énonciations, des territoires, des mouvements de déterritorialisation. Et c'est là-dedans que le désir court. Et c'est là-dedans que le désir coule.
Et toi, c'est quoi l'agencement qui te convient ?
Celui qui excite ta curiosité.
Thé ou café ?
Sable ou galet ?
Aurore ou crépuscule ?
C'est quoi ton mode opératoire pour exprimer ton désir ? Un texto ? Un regard ? Un geste ?
Comment est-ce que tu t'adaptes à la situation ? Dans quels espaces tu te sens à l'aise ?
Il y a le désir de se baigner dans la rivière.
Le désir de partager un repas cuisiné ensemble.
De jouer à la coinche à la madrague.
Le désir de danser jusqu'à l'aube.
De se marrer.
Le désir de se surprendre. Freed from desire, mind and
C'était Désiré, avec Deleuze featuring Gala. La musique est donc très présente dans Infinitif, à travers des montages efficaces et rythmés, parce que La Mèche et le Mulet adorent ça.
Ouais, non, nous on trouve qu'on n'en met pas assez encore. Bon, aussi parce qu'on adore la musique. Moi je suis grande mélomane, et c'est vrai que, oui, on essaie que ça amène vraiment quelque chose à l'émission.
Et on pourrait en mettre beaucoup plus, moi je pense. En fait, on est un peu étriqué dans cette heure et on se dit « Ah, tiens, si on diffuse ce morceau, est-ce qu'on diffuse qu'une minute 20 ? Puis là, on peut récupérer ici un micro. » Et moi, souvent, je dis à Chloé « Non, mais il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout. » Et là, on s'est un peu pris la tête, savoir est-ce qu'on diffusait un...
Ouais, on s'est grave pris la tête.
Mais savoir si on diffusait un morceau de Brigitte Fontaine, les 4 minutes, elle m'a dit « Non, mais 4 minutes, c'est beaucoup trop. »
4 minutes 30, ouais.
Et je lui dis « Bon, bah, en fait, le texte, c'est quand même bien, donc... » Il faut qu'on l'écoute jusqu'à 4 minutes 30. On a ce type de discussion. Mais je suis d'accord, on pourrait mettre encore plus de musique, en tout cas dans l'émission. Après, là, peut-être ce dont tu parles, c'est aussi l'utilisation de la musique dans des montages.
Mais c'est vrai qu'on en fait beaucoup aussi.
C'est vrai.
Je vis à Athènes dans une maison dont je peux dire qu'elle est la mienne pour la première fois depuis plus de 2 ans. Je ne la possède pas, ce n'est pas nécessaire. J'en ai l'usage simplement. Pendant plus d'un mois, j'ai vécu dans cette maison vide, dépourvue de tout meuble. Une maison n'est qu'une porte, un toit et un sol.
Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que la raison pour laquelle je gardais cet espace vide n'était pas fortuite. J'ai établi une relation substantielle entre mon processus de transition de genre et ma façon d'habiter l'espace. Au cours de la première année de transition, alors que les changements hormonaux sculptaient mon corps tel un burin microscopique opérant de l'intérieur, je ne pouvais vivre qu'en nomade.
Mon corps trans est une maison vide. Mon corps trans est un appartement en location, sans aucun meuble. Un lieu qui ne m'appartient pas, un espace sans nom. J'attends toujours le droit d'être nommé par l'État. J'attends et je crains la violence d'être nommé. Habiter une maison complètement vide rend à chaque geste son caractère inaugural. Retient le temps et la répétition, suspend la sommation interpellative de la norme.
La beauté de cette expérience singulière, que l'on pourrait appeler démeublement, me fait me demander pourquoi nous nous obligeons à meubler les maisons. Pourquoi il est nécessaire de connaître notre genre, savoir quel sexe nous attire.
IKEA est à l'art d'habiter ce que l'hétérosexualité normative est au corps désirant.
Une table et une chaise forment un couple complémentaire qui n'admet pas de questionnement. Une armoire est le premier certificat de propriété privée.
Mon corps trans est une maison vide.
Extrait d'un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado.
C'était une lecture de Mon corps trans est une maison vide de Paul B. Preciado pour l'émission Habiter.
Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut écouter Infinitif ? Parce que je crois que vous avez réussi à... Elle est diffusée sur d'autres radios que Radio Grenouille et sur d'autres espaces.
Alors Infinitif, c'est en direct une fois par mois sur Radio Grenouille, le premier mercredi du mois à midi.
Ensuite, c'est disponible en podcast sur toutes les plateformes.
Aussi sur le site de Radio Grenouille, en fait. Hein, vous pouvez les retrouver toutes. Et sur Mixcloud aussi, on avait créé un Mixcloud. Donc, il y a les 12 premières émissions.
Et ensuite, après, c'est des émissions qui voyagent. On est diffusé, certaines émissions sont diffusées sur Radio Panique à Bruxelles, sur Radio Octopus à Rabastens.
Ouais, principalement.
Pour l'instant.
Ouais. Et merci à Campus Paris de s'intéresser aussi à
Infinitif,
à cette émission.
Ce serait bien si ça pouvait rejoindre la grille, du coup, à la rentrée. Je ne sais pas si c'est l'idée que vous aviez, peut-être.
Oui, en tout cas, il va y avoir 16 émissions disponibles. Là, on en est à 12. Il y a de quoi faire 2 saisons.
Puis là, on travaille sur les prochains verbes
oui.
À venir.
Donc, ouais, les prochains verbes, on a touché.
On a chuté pour avril.
Ouais.
Pour mars. Après,
donc, on a chuté pour mars.
Toucher,
sentir
et mûrir pour juin,
qui sera peut-être la dernière, on verra.
suspense est immense.
Et moi, j'allais vous souhaiter des infinitifs à l'infini.
Non, après, je pense qu'on est des personnes qui se lassent assez vite, donc il va falloir qu'on ait d'autres challenges ou d'autres espaces, ou peut-être qu'on va être un peu étriqué sur l'heure et qu'il va falloir que ça déborde un peu plus.
C'est une émission qui demande énormément de préparation et peut-être qu'on ira vers des choses plus espacées dans le temps, mais avec une durée aussi. Voilà, là, une heure, c'est beaucoup de préparation et en même temps, ça passe très vite. Voilà, à suivre, mais c'est vrai qu'on est inspiré par d'autres formats aussi, d'autres aventures. Bon, en tout cas, on a très envie de continuer à faire des choses ensemble.
Ça, c'est sûr.
Et avec d'autres, et à Marseille, et en radio, évidemment, et en direct.
Bien, merci beaucoup, La Mèche et Le Mulet.
Ouais, merci beaucoup, toi, Claire.
À bientôt.
Récréation sonore, c'est fini pour ce soir. L'émission était consacrée à Infinitif, une émission produite par Chloé Despax et Clément Baudet, alias La Mèche et Le Mulet, sur Radio Grenouille. Elle est disponible en ligne, et vous pourrez y retrouver tous les sons diffusés ce soir, et beaucoup d'autres. Vous pouvez réécouter notre émission mardi à midi sur Radio Campus Paris, en DAB+, et la retrouver à partir de mercredi sur notre site www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
La semaine prochaine, vous retrouverez Jérôme Massella et l'IVG en milieu rural de Claire Cache-Couche-Souci. D'ici là, portez-vous bien.
Allez, vous venez,